partagé avec ma femme, qui est là, donc qui est magnifique et qui a en plus, qui va, vous allez pouvoir profiter de la profondeur de son cœur. Ce matin, donc, on veut vous parler sur l'offense. Est-ce que vous pouvez mettre le PowerPoint, s'il vous plaît? Il y a tellement de choses à dire, en fait, sur l'offense. Tellement. On pourrait faire des prédications et des prédications là-dessus. On a essayé de concaténer, de faire un petit peu un résumé de ce qu'est l'offense. Et on a intitulé ce message « L'offense, un piège pour nos vies ». En particulier dans les derniers temps qu'on vit. Et comme le disait JD, c'est quelque chose qui revient en boucle, en fait. Tu peux avoir 40 ans de conversion. Tu as toujours affaire avec l'offense. C'est des choses qui reviennent systématiquement dans la vie. Et on va le voir encore tout à l'heure. Tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Donc on va directement rentrer dans le dur, là. Là, pour vous mettre un peu de contexte, donc Jésus s'adresse aux disciples. Hein. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. S'il se repent, pardonne-lui. S'il a péché contre toi 7 fois dans un jour et que 7 fois il revienne à toi disant « Je me repens, tu lui pardonneras. » Les apôtres dirent au Seigneur « Augmente-nous la foi. » Moi, ce que je voudrais qu'on puisse regarder ensemble, là, c'est « Augmente-nous la foi. » On parle de ces apôtres-là qui ont vécu, qui ont vu des miracles, qui ont vu en pagaille, d'accord ? Ils ont vu des morts ressuscités. Ils ont vu des aveugles voir. Ils ont vu Jésus marcher sur l'eau. Ils ont vu Jésus calmer la tempête. Et là, ces mêmes disciples-là qui ont vu tout ça, ils disent « Seigneur, augmente notre foi. » Ça, c'est quand même fou. Tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. On a pris ces passages-là. Parce que c'est là où est cité l'offense, et on veut définir ensemble qu'est-ce qu'est l'offense en fait. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'y ait pas de piège. Donc c'est Jésus lui-même qui dit ça. Ce mot piège là, on le traduit encore par scandale, c'est le mot grec qui vient donc de scandalon. À l'origine c'était la partie du piège à laquelle l'appât était attaché. Donc on était hier avec mes enfants à la pêche. On était à la pêche en famille. Et donc cet appât qui est mis sur l'hameçon, c'est ça l'offense en fait. C'est quelque chose qui va faire que tu vas mordre et que tu vas être accroché. Tu vas être prisonnier de ce fil-là en fait. Ok ? Donc c'est important de bien comprendre qu'est-ce que c'est l'offense, qu'est-ce que ça fait sur nos vies. C'est quelque chose qui nous accroche là et on en est prisonnier, on est pris au piège quoi. Et pour vous dire quand même un encouragement là-dessus, on va travailler là-dessus, mais il y a quelque chose qui est important de comprendre, c'est comme la condition physique, notre condition physique. Regardez un athlète, quelqu'un qui est bien musclé, tout ça, s'il prend un coup, il n'aura pas du tout la même blessure que quelqu'un qui ne fait pas de sport, qui n'a pas une bonne condition physique, ok ? Donc ce qu'on veut faire aussi ce matin, c'est peut-être nous préparer en fait. On sait d'avance, on l'a vu. Il est impossible qu'il n'y ait pas d'offense, en fait. Donc tu vas traverser la ville, il est impossible que tu ne vives pas d'offense. Donc là, comment la traverser ? Ah non.
Je sais pas s'il marche celui-là.
Oui, ça marche.
Ah oui, si on m'entend ? Ok. Si on peut passer sur la slide d'après, on a voulu parler en premier des premières offenses. Parce que les premières offenses qu'on vit, c'est les offenses qu'on vit durant l'enfance. Et pourquoi ces offenses-là, elles ont un poids particulier? C'est parce que pendant l'enfance, alors qu'on est en construction, les offenses qu'on va vivre, ça va pas juste être justement un coup qu'on va recevoir, mais ça va vraiment déterminer les mécanismes qu'on va mettre en place pour ensuite traverser les prochaines offenses. Si quand on est enfant, on est offensé, on est blessé, on va mettre en place des sortes de mécanismes de survie que moi j'ai appelé des masques de protection, mais on peut appeler ça aussi des costumes de survie. Ça veut dire c'est-à-dire qu'on va se mettre à adopter certains comportements, certains mécanismes, soit pour plus jamais avoir à vivre l'offense, soit pour se dire, bah, en fait, ces offenses-là, je vais arriver à les vivre de la façon la meilleure possible. Et souvent, on va avoir tendance à se cacher derrière ces comportements, derrière ces masques, et on peut alors devenir, au fur et à mesure du temps, soit la personne qui devient un peu le conciliateur. Vous savez, il y a des gens qui disent, ah, moi, les conflits, c'est pas mon truc, je fuis un peu les conflits, parce que comme on a été souvent blessé en tant qu'enfant, on n'a pas su comment faire, alors on va se protéger derrière ces masques-là et on va surtout éviter toutes les occasions qui peuvent amener le conflit. Mais du coup, on enlève la possibilité d'avoir aussi des discussions et des échanges qui peuvent nous faire grandir. Ou il y a des personnes qui vont se mettre à ravaler leurs émotions, à se renfermer émotionnellement. Il y a des offenses qui ont été tellement dures qu'on va se protéger en disant, bah, en fait, ces émotions-là, je ne veux plus jamais les vivre. Donc, je vais me couper de ça, me couper de toute émotion qui a été tellement désagréable pour moi et que je n'ai pas su traverser. Et on peut devenir aussi ce qu'on appelle un peu à la mode les people pleasers. Ça veut dire qu'on va complètement s'oublier pour satisfaire les attentes des autres. Ça veut dire qu'on va mettre qui on est de côté pour pouvoir faire ce qu'on pense que les gens attendent de nous. Parce qu'on se dit, si seulement j'arrivais à faire ce que les autres attendent de moi, alors je serais plus offensée, alors je serais plus blessée parce que j'arriverais à être qui on attend de moi. Il y a des... Il y a des personnes qui vont avoir tendance, quand ils ont été offensés, à tout contrôler, à être dans le contrôle plus, pour justement se dire si j'arrive à contrôler les circonstances, voire si j'arrive à contrôler les gens autour de moi, du coup je serai plus offensée, du coup je serai plus blessée. Au départ, ces réactions, ces masques de protection qu'on a mis, elles ont un vrai but. Elles nous ont aidés à un moment donné, quand on était enfant, à peut-être traverser certaines épreuves dans la vie, à peut-être... passer certaines offenses qu'on a pu vivre ou certaines blessures. Mais le problème de ces masques-là, c'est que quand on les garde, on arrive à un moment où on peut se demander, mais finalement, si j'enlève ces masques-là, qui je suis vraiment ? Et d'ailleurs, si j'enlève ces masques, est-ce que les gens vont continuer à m'aimer ? Si j'arrête d'être celui qui dit toujours oui, si j'arrête d'être celui qui fuit les conflits ou qui ravale mes émotions, si je me mets à être authentique, à être vrai dans les relations, est-ce que je vais continuer à être aimé des autres ? Et en fait, on se cache derrière ça, sauf qu'on s'éloigne de qui Dieu nous a créé. Parce que Dieu, il nous a donné une identité. Dieu, il nous a créé pour être des personnes libres, pour être des personnes aimées, vraies, capables d'aimer sans avoir peur. Aussi d'exister sans devoir constamment se protéger ou performer dans les relations. Ces masques-là qui nous ont protégés à un moment, ils vont finir par nous emprisonner. Parce que ces masques, ils sont fondés sur des mensonges auxquels on a cru. Si on peut passer la slide d'après. À force de survivre, parce que quand on met un masque, quand on met ses costumes de survie, on n'est pas dans le fait de vivre notre propre vie, mais on essaie de survivre à toutes ces blessures qu'on a accumulées. On s'éloigne de notre vraie identité et on se met à croire des mensonges. Parce que là, on a complètement adopté les mensonges qu'on a crus comme notre propre identité. On va commencer à croire des mensonges qu'on n'est pas assez, qu'on ne mérite pas l'amour, qu'on n'est pas aimable, que j'ai besoin de performer pour être aimée, ou que si je montre qui je suis vraiment, peut-être que je serai abandonnée. On va aussi croire des mensonges sur les autres, qu'on peut faire confiance à personne, que les gens finissent de toute manière toujours par nous blesser, que je dois me protéger, et que les autres peuvent même être égoïstes ou dangereux, et que du coup, je dois me protéger pour plus avoir à être blessée des autres. Et souvent, par croire des mensonges sur Dieu, que Dieu nous a abandonnés, qu'il ne nous voit pas, qu'on est seul, que Dieu aime peut-être plus les autres que moi ou qu'il n'a jamais été là pour moi. Et souvent, ces mensonges auxquels on croit, ils viennent s'enraciner tellement profondément à l'intérieur de nous que ça devient des forteresses. La définition des forteresses, si on peut passer le slide d'après, c'est des schémas de raisonnement définis par lequel on traite l'information. Ça veut dire que on a eu ces informations, on a eu ces blessures, ça nous a fait croire à des mensonges, comme on l'a vu, sur nous, sur les autres et aussi sur Dieu. Et en fait, c'est venu tellement en nous comme des vérités que c'est devenu des forteresses autour de nous. Et que ces forteresses-là, elles vont venir définir la façon dont on va traiter les prochaines informations. Ça veut dire que ça va être le filtre, ça va être les lunettes avec lesquelles je vais vivre les relations, avec lesquelles je vais vivre les expériences, avec lesquelles même je vais travailler les épreuves. Et là, on s'éloigne complètement de la vérité de ce que Dieu dit de nous, de ce que Dieu dit des autres aussi. Et on va croire ces mensonges-là et on va finir par être enfermé avec ces forteresses. Et en plus, le problème de ces forteresses-là, c'est qu'ils peuvent nous donner l'illusion d'être en sécurité. Parce qu'on se dit, j'ai bâti des forteresses tellement hautes qu'au moins là, je suis sûre d'être en sécurité. Là, personne ne peut m'atteindre, en fait. Je me suis tellement coupée de mes émotions, j'ai tellement coupé les gens pour plus être atteinte, pour plus être blessée, que là, au moins, je suis inatteignable. Et du coup, on se leurre un petit peu dans ce mensonge. Sauf qu'en fait, on n'est pas en sécurité, on est complètement emprisonné. Parce que la vraie sécurité, c'est de dire, bah, Seigneur, moi je crois, Dieu, je crois que tu es ma protection, je crois que tu es celui qui prend soin de moi, je crois que tu gardes mon cœur et que, oui, je vais être offensé, on va être offensé, on est offensé, on sera encore offensé. Mais par contre, on doit pouvoir continuer à ce que notre cœur soit ouvert et à ce que l'amour de Dieu puisse être répandu en nous. Dans 2 Corinthiens 10, 3, 5, si en effet nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement humaine. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes, car grâce à Dieu, pour renverser des forteresses, nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elles obéissent à Christ. Ça veut dire que ces forteresses, ces raisonnements-là, ils nous coupent de la connaissance de Dieu. Ces mensonges-là nous coupent de pouvoir avoir accès à la vérité et à qui Dieu est. Ces forteresses, elles déforment notre perception, elles déforment notre intention, voire même nos réactions et notre capacité à recevoir de l'amour. Une personne offensée, elle finit souvent par interpréter l'amour parfois comme une menace ou la correction comme un rejet ou parfois même la proximité comme un danger. Ça veut dire que parfois même les personnes qui essaient d'être auprès de nous et qui nous veulent du bien, qui ne veulent pas nous offenser, et ben parce qu'ils s'approchent trop près de notre cœur, parce qu'on se sent qu'ils essaient de passer au-dessus de notre forteresse, et ben on va se sentir en danger, même quand les personnes, leur volonté, c'est de nous aimer. Et ces forteresses, elles peuvent prendre plusieurs aspects. Ça peut être de la méfiance, de la froideur, du contrôle, de l'isolement, ou le refus de laisser quelqu'un rentrer à nouveau. Si on peut passer la slide d'après. Non, alors pardon, elle a dû passer avant sur... Juste avant. Alors, juste avant encore, pardon. Ok. Il y a un verset qui dit « Un frère offensé est pire qu'une ville forte. Et les querelles sont comme les verrous d'un donjon. » Ça montre à quel point, quand on est offensé, on est inatteignable. On devient vraiment une ville forte. Ça veut dire qu'on s'est tellement barricadé qu'on finit par être complètement isolé. Et je voudrais vous partager une parabole que j'ai trouvée dans le livre de John Bever sur les offenses. Les offenses, l'arbre caché de Satan, qui est que je vous conseille de lire d'ailleurs, qui est vraiment super sur le sujet des offenses. Je vous la partage. À l'époque où les colons s'établirent dans l'Ouest, un homme sage habitait au sommet d'une colline à la sortie d'une ville nouvelle de l'Ouest. Quand les colons arrivaient de l'Est, cet homme sage était le premier qu'ils rencontraient avant d'arriver au village. Et il demandait avec empressement comment étaient les gens de la ville. Donc ces colons, ils partaient d'une ville pour aller dans une nouvelle ville. Et il y avait ce sage qui était à l'entrée de la ville. Et il s'empressait de leur dire, bah, dis-nous un peu comment est la ville dans laquelle on veut venir s'installer. Et le sage, il leur répondait par une question. Comment étaient les gens de la ville que vous venez de quitter ? Alors certains disaient, la ville dont nous venons était mauvaise. Les gens étaient gouailleurs, grossiers, ils exploitaient les gens innocents. Elle était pleine de voleurs et de menteurs. Alors l'homme sage leur répondait, bah, cette ville est semblable à celle que vous venez de quitter. Donc la ville dans laquelle vous êtes en train d'arriver est exactement pareille que ce que vous êtes en train de me décrire. Alors ils remerciaient l'homme de leur avoir évité des ennuis qu'ils venaient de quitter. Et ils allaient directement dans une autre ville. Puis un autre groupe de colons arrivait et lui posait la même question. Comment est cette ville ? Alors l'homme sage leur demandait encore, bah, comment était la ville que vous avez quittée ? Ceux-ci répondirent, merveilleuse, nous avions des amis très chers, chacun se préoccupait de son voisin, on ne manquait jamais de rien, car nous prenions tous soin les uns des autres. Si quelqu'un avait un projet important, toute la communauté se réunissait pour l'aider. Ce fut une décision difficile pour nous de partir, mais nous nous sommes sentis obligés de partir pour laisser la place aux générations futures et d'aller vers l'Ouest comme pionniers. Le vieil homme sage leur dit exactement la même chose qu'ils avaient dit à l'autre groupe. Cette ville est exactement pareille que celle que vous avez quittée. Ces gens répondirent avec joie, établissons-nous ici. Pourquoi ? Parce que la manière dont on a perçu nos anciennes relations vont déterminer les relations futures qu'on va construire. La façon dont on quitte un mariage, une église, une relation, détermine la façon dont on va rentrer dans une prochaine relation, un prochain mariage ou une église. Je suis thérapeute de couple et on sait statistiquement que le taux de divorce est supérieur pour un deuxième mariage qu'un premier. Alors qu'en vrai, on pourrait se dire, normalement, le premier, on a appris nos erreurs. Je pense que là, j'ai compris la leçon. Je ne vais pas reproduire la même chose dans notre deuxième mariage. Sauf que quand on part d'un mariage avec des offenses, avec du non-pardon, avec des choses qui ne sont pas réglées, qu'on l'amène dans notre relation d'après, ben, ce qui se produit, c'est qu'encore plus, si c'est deux personnes qui ont été offensées dans des relations précédentes, ben, en fait, on amène ces offenses dans le couple, on l'amène dans la relation. Et il y a beaucoup plus de risques que la relation échoue. Et je crois que les statistiques seraient pareilles quand on quitte une église, quand on quitte un groupe d'amis, peu importe ce qu'on quitte. La façon dont on va quitter quelque chose va déterminer. Parce que ce serait complètement fou de croire qu'on n'a pas notre rôle à jouer dans ce qu'on construit. Ça voudrait dire que finalement, les gens d'avant étaient tous mauvais. Là, on peut imaginer ces colons, ils arrivent, ils disent « Ah, avant, ils étaient mauvais, ils ne savaient pas. Là, je viens ici et je veux savoir comment c'est. » Mais en fait, qui on est va déterminer ce qu'on va construire dans les relations dans lesquelles on arrive. Et on ne peut pas imaginer que parce qu'on arrive avec ce fil, si on est avec ces forteresses-là, avec ce fil de méfiance, qu'on n'arrive plus à témoigner de l'amour, etc., ben forcément, les relations qu'on va construire, ça va être des relations de méfiance, de peur, de doute, enfin, tout un tas de choses. Les forteresses de pensée créent les filtres qui vont nous faire voir les gens et les situations avec un biais qui n'est plus neutre. Et ça détermine comment nous aussi, on va se comporter avec eux. Surtout que le niveau d'attente, le niveau d'offense qu'on aura, il est toujours lié au niveau d'attente qu'on a envers quelqu'un. Ça veut dire que souvent, les relations dans lesquelles on est les plus blessés, les plus offensés, c'est toujours les relations où on a le plus d'attente. Avec notre conjoint, avec les responsables de notre église, avec peut-être nos patrons. En tout cas, des personnes où on se dit, moi, parce que tu es ça, je m'attends à tel niveau, à ce que tu sois comme ça. Et parce que tu n'es pas à la hauteur de ce que je pense que tu devrais être, eh ben, je vais être offensée par la façon dont tu vas être envers moi. Et du coup, l'offense, ben, elle va prendre un tout autre niveau que il y a des gens, si on n'est pas proche d'eux, ils peuvent se comporter de telle ou telle façon, on ne va pas être blessé de la même manière.
On peut donner une image, c'est que si notre niveau d'attente dans la relation, il est là, et que la personne, elle me donne ça, ben, je vais être offensée de ça.
Et de la même façon, si mon niveau d'attente, s'il est là et que la personne, elle fait ça, je suis super contente parce qu'il est vachement plus que ce que j'avais comme attente envers lui. Si on peut mettre la slide sur les versets sur l'amour. Juste avant. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Dans ce verset-là, le mot amour, c'est l'amour agapé. C'est l'amour inconditionnel. Parce qu'en vrai, aimer des gens qui ne nous offensent pas, aimer des gens qui nous font du bien et qu'on aime bien, jusque-là, je pense qu'on est tous en capacité de le faire. Par contre, l'amour agapé qui est parlé ici, c'est l'amour inconditionnel. Ça veut dire, même si l'autre n'est pas à la hauteur de ce que j'attendrais de lui, eh bien, je vais quand même être en capacité de moi déverser de l'amour. Et le deuxième verset, c'est « Alors beaucoup trébucheront, ils se trahiront, se détesteront les uns et les autres. » Et dans ce verset-là, trébucheron, c'est le même mot que Romain a partagé tout à l'heure, donc scandalon, donc offense. Ça veut dire alors qu'il y aura beaucoup d'offenses, ils se trahiront et se détesteront les uns les autres. Parce qu'en fait, l'offense, elle amène la trahison. La trahison, c'est quoi ? C'est je vais faire passer mon intérêt avant le tien. Et en fait, quand on se sent offensé, quand on est dans une stratégie de vouloir se protéger, alors mes besoins, alors ce qui est important pour moi, va passer au détriment de toi, en fait, au détriment de la relation. Et du coup, le focus, il ne va plus être de donner, d'aimer, mais il va être de se protéger. Et là, on passe complètement à côté de ce que Dieu nous demande. dans les commentaires bibliques, le mot offense, ça, je me suis dit, c'est, en fait, c'est tellement ça. Ça dénote toujours une incitation à un comportement qui pourrait ruiner la personne en question. Ça veut dire qu'alors quelqu'un nous offense, quand on va vivre cette offense, la réaction qu'on va avoir, finalement, ça va nous ruiner, nous. Alors que même si l'autre nous a blessés et qu'à ce moment-là, on peut imaginer qu'on n'avait pas forcément notre part de responsabilité, parce qu'on va prendre cette offense, finalement, la ruine, elle va être pour notre propre vie. Et ces offenses-là, elles vont nous couper de l'amour et peuvent même, comme le verset nous dit, amener à se trahir et à se détester. Et du coup, on n'est plus en capacité d'aimer. Et on n'est plus... Je prenais l'exemple de... Il y a la mère de Galilée, la mère morte. La mère de Galilée, elle reçoit l'eau du Jourdain et ensuite, elle laisse couler l'eau. Et du coup, c'est une eau qui porte la vie. C'est une eau où il y a des poissons. C'est une eau où il y a de la vie. Par contre, la mère morte, l'eau vient du Jourdain aussi. Par contre, comme l'eau, stagne, elle devient très salée. Elle ne peut plus porter la vie. Il n'y a pas de poissons, il n'y a pas de vie. Et en tant que chrétien, quoi qu'il en soit, la mère de Galilée, elle vient. Dans tous les cas, l'amour de Dieu, il est répandu sur notre vie. Mais ce qui va déterminer si on va porter du fruit, c'est est-ce qu'on est en capacité encore de pouvoir laisser passer l'amour au travers de nous. Et ça, clairement, quand on est offensé, on n'est plus en capacité de laisser l'amour passer au travers de nous. Donc je me dis, on a envie d'être des chrétiens, mère de Galilée.
Et Dieu nous appelle à sa ressemblance, et Dieu lui-même est en fait dans cet élan toujours de donner. C'est la nature de Dieu, et Dieu est amour, et c'est cet élan-là qu'il a, et qu'on doit toujours avoir en fait. Et quand on est offensé, justement, on voit que... au fur et à mesure du temps, c'est comme si notre amour, notre passion pour Dieu, nos actes d'amour envers les autres vont commencer à diminuer. Ça va être difficile d'aimer les gens, etc.
Et comme il disait, notre exemple ultime, c'est Jésus. Jésus, il a été rejeté, mais il ne s'est jamais fermé. Il a été trahi, mais il n'en est jamais devenu amer. Il a été abandonné, mais il n'a jamais, jamais cessé d'aimer. Et il a été blessé, mais il n'a pas bâti des forteresses qu'il a coupées des autres. Il savait qu'il allait être trahi, il savait qu'il allait être offensé, qu'il allait être blessé, mais il a continué d'aimer. Il a continué d'aimer jusqu'au dernier moment.
Tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Alors maintenant, on a vu ce que c'était l'offense. Tu peux baisser juste un petit peu, peut-être, s'il te plaît. Mais Dieu a un antidote à l'offense, ok ? Donc Satan, clairement, il a une arme, c'est l'offense, pour nous détruire chacun. Maintenant, Dieu nous demande de pardonner. Et on voit dans ce verset Éphésiens 4, 32, « Pardonnez-vous les uns les autres, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Alors là, ce n'est pas une suggestion que Dieu nous donne. Hein. c'est un commandement. Ok ? Si tu peux passer à la suivante encore. Dans ce passage-là, Matthieu 18, 21 à 35, on va le lire ensemble. Il est un peu long, mais important. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Est-ce que ce sera jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Pourtant, Pierre, là, il était tout content. Hein, de dire, 7 fois, c'est déjà beaucoup, en fait. Parce que pour remettre du contexte, là, Pierre est dans cette culture juive où il y a la loi du talion, qui était là, c'est œil pour œil, dent pour dent. Donc si tu m'as fait du mal, tu m'as blessé l'œil, je vais te blesser l'œil. Et encore, il faut savoir que la loi du talion, elle était là pour diminuer les vengeances. Ça, c'est quand même fort. C'est pour dire, tu m'as blessé l'œil, je ne vais pas te tuer, tu vois. Si tu ne vas pas faire plus que ça, d'accord ? C'est pourquoi le royaume des cieux ressemble à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Quand il se mit à l'œuvre, on lui en amena un qui devait 10 000 sacs d'argent. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, afin d'être remboursé de cette dette. Le serviteur se jeta par terre et se prosterna devant lui en disant « Seigneur, prends patience envers moi et je te paierai tout. » Rempli de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit la dette. Une fois sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il l'attrapa à la gorge et se mit à l'étrangler en disant « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon tomba à ses pieds en le suppliant. « Prends patience envers moi et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas et alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. À la vue de ce qui était arrivé, ses compagnons furent profondément attristés. et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. « C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. » Et dans ce texte-là, j'ai mis en gras 7 fois, jusqu'à 77 fois, 7 fois. Le chiffre 7, c'est un aspect qui est parfait, complet. Et donc, ce n'est pas un nombre que Jésus voulait nous communiquer là. C'est vraiment un état de cœur, un état de vie. C'est un état, ton cœur, en fait, ta vie, tu dois être dans cette position intérieure d'être dans le pardon, en fait. De libérer le pardon. Tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Et ce qui est, j'avais noté en gras aussi les 10 000 talents. Pour vous montrer un petit peu l'énormité du truc, c'est qu'à l'époque, un talent représentait environ 6 000 journées de travail. Je ne sais pas si vous imaginez. Et là, on parle de 10 000 talents. Donc ça représente 60 millions de journées de salaire. Donc il y en a certains qui disent que ça représente même un budget d'État. Et là, c'est donc une dette qui est impossible à rembourser. Je pense à l'époque, en fait, il n'y avait pas de chiffre qui était plus grand que 10 000. C'était vraiment le chiffre qu'on utilisait qui était le maximum, en fait. Donc, c'est vraiment pour souligner que cet aspect impossible de rembourser cette dette. Et nous, envers Dieu, la dette qu'on avait envers Dieu, parce qu'on a péché, parce que légalement, c'est impossible qu'on puisse payer ça. Il n'y a que Jésus qui a pu payer cette dette. Et dans Matthieu 6, 12, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. » C'est fort. Donc, si tu veux être pardonné, si tu veux vivre le pardon de Dieu, il faut que tu libères le pardon aux autres aussi. Et même la prière du Notre Père, elle dit « Pardonne-nous nos offenses, enfin, comme nous-mêmes nous pardonnons aux autres, leurs offenses, ceux qui nous ont offensés. » Tu peux mettre la slide suivante, s'il te plaît. Alors, on a trouvé intéressant de parcourir ce que le pardon, de définir ce que le pardon n'est pas et ce que le pardon est. Le pardon, ce n'est pas minimiser le mal. En fait, quand tu as vécu une blessure, quand tu as vécu une offense, il faut la reconnaître. C'est important de reconnaître, là, j'ai été blessé, je souffre, j'ai mal. Le pardon, ce n'est pas nier la douleur. Donc quand tu as mal, il faut s'arrêter. Des fois, on essaie de traverser l'offense en disant, c'est bon, ça va passer. Mais non, arrête-toi, reconnais l'offense, reconnais l'injustice. Ce n'est pas nier la douleur, ce n'est pas accepter l'injustice non plus. Et ce n'est pas forcément restaurer immédiatement les relations. Je peux prendre l'exemple d'une femme victime de violences conjugales. C'est si elle a subi des violences, elle doit se mettre à l'écart, elle doit couper la relation, en tout cas pendant un temps, c'est clair et net. Elle doit se mettre à l'abri, elle doit se protéger. Et toi-même, quand tu vis des offenses, tu vis quelque chose qui t'a blessé dans une relation, protège-toi aussi. D'accord ? Tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Donc le pardon, qu'est-ce que c'est ? C'est une vie où tu n'as pas cette amertume-là. C'est une vie, l'absence d'amertume. C'est une décision intérieure du cœur. C'est de prendre position, même si c'est difficile, je souffre. J'ai reconnu que je souffre, mais je me positionne et je décide d'obéir. C'est un acte de foi. C'est pour ça qu'il disait « augmente notre foi ». Le pardon, c'est libérer un prisonnier. D'accord ? Tu vois, il y a la personne qui t'a offensé, qui est dans cette prison. Et en fait, c'est comme si tu ouvres la porte, mais tu t'aperçois que ton cœur était dedans aussi, en fait. Que toi-même, tu étais prisonnier de cette offense-là, de cette relation-là. Et pour finir, le pardon, c'est abandonner la vengeance et laisser Dieu faire justice. C'est renoncer à ce que toi-même, tu vas crier, tu vas aller voir l'autre, « Fais-moi justice, paye ta dette !» C'est renoncer à ça, le pardon. Tu peux passer à la slide suivante. Et je veux vous proposer deux façons de traverser l'offense. Je parle, pour moi, c'est parlant. Ça m'a parlé. Et donc, c'est de vivre l'offense ou comme un avion ou comme une voiture. C'est des choses simples, mais ça permet de mémoriser un petit peu. Donc l'avion, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser le vent, l'adversité, l'aspect contraire, tout ce qui vient vers lui pour le faire monter. L'offense devient une opportunité de croissance. Là où la voiture, elle va encaisser, elle va rester au sol, l'avion, il va profiter de cette offense pour régler les choses dans son cœur. Et j'ai cette conviction dans mon cœur que quand tu es dans cet état d'esprit, que tu continues à libérer, il y a une bénédiction particulière que le Seigneur libère. Et tu vas monter, quand tu vas être dans ce mode d'avion, pas sur le téléphone, hein, mais ce mode d'avion-là, tu vas prendre de la hauteur, tu vas voir les situations d'une manière différente. Et tu ne vas pas rester dans ton offense à regarder, mais là c'est, voilà tout ce qui se passe dans cette amertume. Tu prends de la hauteur. Il y a vraiment une bénédiction particulière qui découle de tout ça. Et donc, en mode avion, tu vas bénir malgré la douleur et prendre de la hauteur spirituelle. Maintenant, la voiture, donc on a dit, elle encaisse de face l'adversité. Et ça, il y en a beaucoup qui se mettent en mode voiture. Moi, le premier. La prédication, on se l'adresse à nous-mêmes parce qu'on est tous concernés par ces deux types, enfin de vivre l'offense. Donc c'est où on encaisse la douleur, on encaisse et puis on se dit ça va passer. Mais en réalité, on a besoin de s'arrêter. On a besoin de se dire là, j'ai été blessé, je suis offensé. Et notre cœur s'endurcit progressivement, et les blessures intérieures s'accumulent. Il y a cette image aussi que d'un verre où il y a comme s'il y avait du sable au fond. Et dès que tu vas revivre une situation, c'est comme ce verre est secoué et le sable prend toute la place dans le verre. Okay ? Et ça montre que quand tu vis, tu as des traumas, en fait, tu as des choses, tu as des blessures qui sont là. Et quand tu les traites pas, tu vas revivre des situations et tu vas pas comprendre, mais d'un coup, tu vas surréagir, en fait. Tu peux passer la slide suivante, s'il te plaît. Et il y a ce verset que je vous propose. Moi, pendant des années, je me suis dit, mais Seigneur, ok, tu nous demandes de bénir. Mais c'est quoi, Seigneur? Pourquoi? Enfin, ça paraît fou, humainement. Je dis, bénir nos ennemis, bénir ceux qui nous maltraitent, ceux qui nous ont fait du mal. Tu veux qu'on les bénisse? Je sais pas vous, hein, mais moi encore des fois là, si on me donne une claque, c'est pas forcément le retour que j'ai envie de faire. C'est pas forcément de le bénir, c'est plutôt de lui en mettre plusieurs. Et là, pourtant, dans ce passage-là, il nous dit aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Et je suis persuadé que quand on obéit à ce commandement, à ce que le Seigneur nous invite à faire. Là, il y a quelque chose, il y a une guérison qui s'opère dans les cœurs. Il ne faut pas négliger ça. Parce que oui, on pardonne, oui, on libère, mais le Seigneur va venir guérir nos cœurs au travers de ce qu'on bénit, au travers de ce qu'on prie pour la personne qui nous a offensés et qu'on lui fait du bien aussi.
Par rapport à ça, moi aussi, je me suis souvent demandé pourquoi on avait besoin, enfin pourquoi, parce qu'il y a quand même plusieurs versets où Dieu nous demande de bénir ceux qui nous font du mal, de bénir ceux qui nous maudissent, etc. Et moi, je me dis toujours, franchement, Dieu, quand il nous demande un truc, ça a toujours du sens. Et je sais pas vous, mais moi, ce que j'aime aujourd'hui, c'est qu'on a des études qui nous prouvent certaines choses que Dieu nous demandait déjà de faire dans la Bible, comme le jeûne, comme plein d'autres choses. Et en fait, en faisant quelques recherches, je me suis rendu compte. Ils appellent ça la méditation de compassion en psychologie. Et en fait, les neurosciences et plusieurs chercheurs ont étudié qu'est-ce que ça fait quand on bénit des personnes, quand on médite positivement, on veut du bien à quelqu'un qui nous a fait du mal. Et bien en fait, ils ont pu le voir clairement à l'IRM. Ça vient faire bouger les zones liées à l'empathie, liées à la compassion et à la régulation émotionnelle. Donc ça veut dire que quand on bénit... Alors les recherches, c'est sur plusieurs semaines de façon intentionnelle. Donc ça veut aussi dire qu'en fait, il faut persévérer. Le pardon, c'est une décision qu'on prend, mais c'est surtout un chemin qu'on emprunte et il faut y revenir. Et en fait, pour que vraiment ça puisse devenir quelque chose de vraiment moins douloureux et que petit à petit Dieu fasse son travail. Il y a la partie que Dieu va faire et en vrai des fois c'est juste un miracle, il n'y a que lui qui est capable de nous libérer de certaines offenses, mais il y a aussi nous une part qu'on a à faire. Et alors qu'on bénit ceux qui nous ont fait du mal, alors qu'on souhaite du bien, on souhaite le meilleur à ceux qui ne nous ont pas donné le meilleur, et bien en fait on va venir modifier notre cerveau, littéralement. On va venir modifier nos réactions émotionnelles. Et ce qui est génial, c'est qu'ils se sont rendus compte que les personnes qui faisaient ça, alors qu'ils leur montraient des images, des choses d'offense ou de blessure, et qu'ils n'étaient pas forcément dans cet état de méditation, leur réponse émotionnelle avait changé. Donc ça veut dire Dieu nous a donné la clé pour que, alors qu'on a été offensé, alors qu'on déclare le bien, alors qu'on choisit le pardon, et qui n'est franchement pas la voie la plus simple, on ne va pas se mentir, moi-même, en préparant ce message, Dieu travaille notre cœur. Dieu nous montre les choses qu'on a encore besoin de régler, les offenses qui restent encore dans un coin, qu'on s'est dit franchement ça va, mais en fait, il faut qu'on aille au bout, il faut qu'on ait le courage, je pense, d'aller au bout de la guérison de nos offenses, si on ne veut pas continuer à le retransmettre dans notre vie d'aujourd'hui. Donc, voilà, je veux qu'on s'encourage aujourd'hui à persévérer dans le pardon, dans la guérison de nos offenses et dans le fait de libérer les autres. Parce qu'alors qu'on libère les autres, alors qu'on les bénit et que nos prières sont efficaces et Dieu va les bénir, moi je le crois, et bien Dieu fait ce travail en même temps à l'intérieur de nous. Alors qu'on libère les autres, Dieu nous libère aussi en profondeur. Et voilà. Ouais.
Maintenant, comme ça a été dit, comme on l'a répété plusieurs fois, c'est un processus, c'est un chemin de vie. Alors là, on voudrait prendre un temps, juste de s'arrêter. Je suis persuadé que plusieurs, là, pendant qu'on a prêché, le Saint-Esprit révèle des situations, révèle des choses, ou de dire, ben là, en fait, ouais, ça couine encore là, dans mon cœur. Là. Je voudrais juste vous proposer qu'on puisse prendre un temps d'analyser cela. Et si le Saint-Esprit a parlé, ben, c'est pas pour rien. Donc, je vous invite à, si tu veux venir à la guitare ou au piano, et puis on va prendre juste un temps pour analyser nos cœurs, libérer ce qu'on doit pardonner et bénir aussi ceux qui nous ont fait du mal. Et peut-être pour ceux qui ont... C'est trop dur pour eux. On peut vous proposer. Il y a les équipiers de prière là. Donc il y a JD, Aurélie, il y a Élie. On va pouvoir prendre un temps simplement pour prier pour ces situations-là. C'est trop compliqué pour vous. Sinon, simplement prenons un temps pour analyser notre cœur et puis répondre à ce que le Seigneur nous dit ce matin.
Pendant la louange ce matin, je ressentais que particulièrement ce matin, il y a des couples qui sont offensés dans leur cœur parce qu'on, comme on sait, les attentes qu'on met les plus hautes, c'est là où on est le plus offensé. Et je ressentais que ce matin, il y avait des couples où il y a eu des offenses qui ont été faites, il y a des mots qui ont été dits, il y a des actes qui ont été posés, il y a des choses qui sont venues vraiment blesser le cœur en profondeur. Et qu'en fait, ce matin, il veut restaurer la relation parce que le problème, quand on fait le dos rond, là, quand on fait la voiture et qu'on essaie de... Allez, on fait comme si de rien n'était. En vrai, on ne peut pas faire comme si de rien n'était. Quand on a été offensé dans notre cœur, quand il y a des choses qui ont été posées, on a besoin de se demander pardon. Il y a peut-être aussi des personnes ce matin qui disent, bah, en fait, moi, je me reconnais dans la personne qui a offensé aussi. Je me reconnais dans la personne qui a été offensée et qui, du coup, a offensé. Parce qu'on le sait, quand les gens blessés blessent. Et c'est la suite logique des choses. Et que bah, si aussi ce matin vous révèle dans votre cœur des personnes que vous avez blessées, bah, libérez le pardon aussi sur ces personnes. N'hésitez, on n'est pas, oui, on a chacun notre part à faire sur le fait de pardonner même des gens qui ne nous demanderont jamais pardon. Et il ne faut pas attendre que les gens nous demandent pardon. Mais je crois aussi qu'en tant que chrétien, on a notre responsabilité, si on sait qu'on a blessé des gens, et bah, d'avoir l'humilité d'aller le reconnaître et dire bah, « je te demande pardon, je t'ai offensé, j'ai blessé ton cœur, ce n'était pas mon intention et je te demande sincèrement pardon ». Parce que le fait de demander pardon, on libère la grâce aussi sur la vie des autres.